Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Pour le plaisir de la comparaison, je vous raconte les grandes grèves de 1995. Elles ont duré 15 jours. Il s'agissait déjà d'en finir avec les régimes spéciaux de retraite de la SNCF et de la RATP. Et à la fin, le gouvernement a dû capituler, renoncer à sa réforme. Une histoire que j'ai écrite avec les archives d'Europe 1. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Je vous replante le décor, au cas où. Novembre 1995. Jacques Chirac est président de la République depuis 6 mois. Et d'entrée, il a nommé à Matignon le meilleur d'entre nous, comme il le dit lui-même, Alain Juppé. Juppé a 50 ans. À l'époque, on utilise encore le franc, mais l'euro est sur les rails, et pour entrer dans l'euro, on a promis, à Maastricht, de réduire notre déficit budgétaire à 3% maximum dans 4 ans, c'est-à-dire en 1999. Mort de rire, je sais. Mais bon, ils viennent d'arriver au pouvoir. Ils ont promis de le faire. En avant! Le mercredi 15 novembre 1995, Alain Juppé, d'un pas volontaire, monte à la tribune de l'Assemblée nationale. Il a un plan pour réduire le fameux trou de la Sécu. On ne rentrera pas dans la monnaie unique avec un système de sécurité sociale aussi déficitaire. Et donc on y va.
La parole est à Monsieur le Premier ministre.
Le gouvernement ne se contentera pas d'un nouveau replâtrage de la sécurité sociale. Il veut une réforme faite pour durer. Il ne s'agit pas simplement de boucher un trou. Il s'agit de faire en sorte que les Français soient bien soignés.
Si le sens des responsabilités, la primauté de l'intérêt général, la volonté de partage et de solidarité l'emportent, nous allons réussir ce qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 30 ans.
Alors, que nous a-t-il mitonné? Pour boucher le trou de la branche maladie, Juppé vient d'inventer une nouvelle taxe sur les salaires, la contribution à la réduction de la dette sociale, la CRDS. Mais la grosse affaire concerne la branche retraite. D'après ce qu'on sait, au début, il a hésité. Il l'a rajouté au tout dernier moment. 6 mois après l'élection, il s'est dit « ça va passer ». Il veut réformer les régimes spéciaux de retraite. Les agents de la RATP et de la SNCF devront cotiser 40 ans, comme les autres. Ça passe ou ça casse? Pour zapper le débat parlementaire, qui risque d'être chaud avec la gauche, Chirac et Juppé ont choisi la méthode bulldozer. Ça ne sera pas une loi qui fera son petit aller-retour entre l'Assemblée et le Sénat, les commissions, les amendements et tutti quanti. Juppé va engager la responsabilité de son gouvernement. Et après, il procédera par ordonnance. Politiquement, c'est absolument sans risque, puisque la droite tient les 2/3 des députés. À gauche, les communistes hurlent au démantèlement de la Sécu. Normal. Alors que les socialistes, honnêtement, sont mollassons dans la critique. Et du côté des syndicats, alors, le gouvernement a d'entrée un allié. Une alliée, en l'occurrence. Nicole Notin, la patronne de la CFDT.
Aujourd'hui, à l'écoute de la déclaration du Premier ministre, un engagement, des responsabilités, des décisions sont prises pour que véritablement des réformes de fond soient engagées.
Chez Force Ouvrière, ça n'est pas le fait que les cheminots doivent cotiser 40 ans qui met Marc Blondel dans tous ses états. C'est un autre point de la réforme dont je ne vous ai pas encore parlé. Le plan Juppé prévoit que le budget de la sécurité sociale sera désormais établi par le Parlement. Alors que depuis la fin de la guerre, il est acquis que la chose est négociée entre les syndicats et le patronat. Dans la bouche de Blondel, ça donne ça.
Et j'ai assisté, moi, à la plus grande opération de, comment je vais appeler ça, de rapt
que je connaisse dans l'histoire de la République. En décidant que le Parlement maintenant allait donner les orientations de la protection sociale, il rafle 2 milliards 200 millions.
Mais le plus remonté de tous, c'est Louis Vianney, le patron de la CGT.
En guise de plan de sauvetage, c'est un plan de saccage. Depuis 30 ans, je crois qu'aucun gouvernement n'était allé aussi loin dans l'agression contre notre système de protection sociale. Aucune branche, aucun secteur n'est épargné. Maladie, vieillesse, famille, ce dispositif n'appelle qu'un seul jugement. Ça, c'est inacceptable. Et qu'une seule réponse, c'est la riposte la plus vigoureuse possible. Faire du 28 novembre une très très grande journée de lutte.
Le lendemain de l'annonce de son plan, Alain Juppé déclare au journal Sud-Ouest: si 2 millions de personnes descendent dans la rue, mon gouvernement n'y survivra pas. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais je ne crois pas à cette hypothèse. Je suis persuadé que les Français ont bien compris la nécessité de l'effort. Ça serait peut-être passé si, dans la foulée, Juppé n'avait pas mis un deuxième fer au feu. Là où Juppé fait une grosse boulette, c'est qu'il lance en même temps une deuxième réforme. 2 jours après son discours devant l'Assemblée, la secrétaire d'État au transport Anne-Marie Idrac annonce au syndicat une réorganisation de la SNCF, qui perd chaque année 12 milliards de francs. Et donc, on augmente le prix des billets, plus 6%, et on ferme les lignes non rentables. Bernard Thibault, le secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots, fait un rapide calcul. Il s'agit de fermer, à moyen terme, un quart du réseau ferroviaire français. Les effectifs, bien sûr, seront revus à la baisse en proportion. Mais quelle idée a eu Juppé de lancer en même temps une réforme de la Sécu, une réforme des retraites et une réforme de la SNCF? Une première grève a lieu le vendredi 24 novembre 1995, dans la fonction publique et dans les transports. À la manœuvre, la CGT. Dans toute la France, presque tous les trains restent au dépôt. Et à Paris, la moitié des lignes de métro sont fermées. Et les autres tournent au ralenti. Les Parisiens découvrent la joie du vélo.
Le seul moyen de circuler pour vous aujourd'hui?
Bah ouais, j'habite en banlieue, qu'est-ce que je fais? 93, Bondy. Et en plus, je suis pas arrivé, je vais à Montparnasse. Parce que mon patron, il payait double, autrement j'y allais pas. Je restais chez moi.
Les chiffres à l'époque valent ce qu'ils valent. Mais on parle de 100 000 manifestants à Paris, 50 000 à Marseille et 15 000 à Bordeaux. À Paris, Nicole Nota de la CFDT ose faire une apparition dans le cortège, rappelant qu'elle soutient le plan sur la Sécu, mais pas la réforme sur le régime des retraites. Pour vous dire la vérité, elle se fait un petit peu secouer les plumes. Il faut l'évacuer par la petite porte. Mais pour la CGT, en revanche, la journée a été un succès. Et du coup, Bernard Thibault, le leader des cheminots CGT, fait une proposition à Louis Vianney, le patron de son syndicat.
Bon, dis-moi, Louis, ce que je te propose, c'est de battre le fer tant qu'il est chaud. OK? Les cheminots poursuivent la grève. On continue. On fait voter les gars en Assemblée Générale là-dessus. Et puis après, on voit.
Gare après gare, dépôt après dépôt, à main levée, à l'unanimité, les assemblées générales décident de poursuivre la grève.
Qui est pour la reconduction de la grève? Mes camarades, il faut continuer comme on l'a fait depuis le début.
Le lundi matin 27 novembre, les trains ne redémarrent pas. Bernard Thibault de la CGT à la main.
Les assemblées générales du personnel ont conclu, face à la situation et au blocage gouvernemental, que la meilleure voie pour continuer d'essayer de se faire entendre, c'est malheureusement le recours à la grève.
Et jusqu'où irez-vous donc?
Je pense que pour l'instant, les cheminots souhaitent aller jusqu'à ce qu'ils soient entendus par les pouvoirs publics et la direction d'entreprise.
Le lendemain, nouvelle manifestation dans toute la France. mais cette fois à l'appel de Force ouvrière. Marc Blondel a mitonné un bon coup. Il est en tête du cortège parisien avec son écharpe rouge. Et qui apparaît ? Louis Vianney, le patron de la CGT. Clique la Kodak devant les photographes. Les frères ennemis de FO et de la CGT unissent leurs forces. Juppé aura au moins réussi ça. Deux jours plus tard, Juppé sent que le vent tourne. Il donne une conférence de presse, il a perdu son sourire de pionnier. Mais il maintient ses réformes.
Ce plan est juste. Il répartit les efforts de manière équitable et il ne touche pas les 5 millions de Français les plus modestes. L'heure des vraies réformes a sonné pour la France.
Il ne touchera pas une virgule de son texte. Il parie sur l'impopularité de la grève. Et le lendemain, pas de train, pas de métro, et la Poste, EDF-GDF, France Télécom entrent dans la valse, et les enseignants aussi, et même les hôpitaux annoncent des grèves ponctuelles. La France est paralysée. Le 1er décembre, les cheminots entament leur 8e jour de grève. Pour décourager les non-grévistes, la CGT a installé des piquets de grève devant les dépôts. Les trains, quoi qu'il en soit, ne peuvent pas sortir.
On a le moral ici. On a le moral.
Allez, accompagné.
Ah, tata.
Bonjour.
Bonjour. Par solidarité, voilà 200 balles. Ensuite, il y en a une qui m'a rapporté des vivres. La soupe. Alors, j'ai tout dans le coffre. Et rebelote, 100 balles.
J'ai les cartes, mon petit.
Des piquets de grève à l'ancienne, avec brasero, barbecue, thermos de café et des airs de front populaire. Et quand passent les non-grévistes, ils se font copieusement siffler.
Hey « Eh les gars, là les jupettes !»
La reconduction de la grève se décide à main levée. Et gare à celui qui ne lève pas la main. Au même moment, les syndicats sont reçus au ministère des Transports, par le ministre en personne, Bernard Ponce, vieux costard du gaullisme et fidèle grognard de Jacques Chirac. D'entrée, le leader des cheminots CGT, Bernard Thibault, fixe ses limites.
Bien, monsieur le ministre. D'abord, il y a un point sur lequel on refuse absolument de négocier. C'est la retraite des cheminots. C'est un point fermé, monsieur le ministre. Absolument fermé. Et par ailleurs, nous souhaitons remettre à plat le plan de réforme de la SNCF.
Bernard Ponce l'écoute, poliment. Et puis, au revoir. Le gouvernement ne lâchera rien. Il compte toujours sur le pourrissement de la grève, sur ce moment où, à force de durer, elle va devenir impopulaire. Sauf que c'est exactement l'inverse qui va se passer. Le jour même sort un sondage de l'Institut CSA. 62% des Français soutiennent la grève. Et 65% ne font pas confiance au gouvernement pour résoudre la crise. Et sur le terrain, il y a tous les jours de plus en plus de monde dans les manifestations. À Paris, tous les transports sont bloqués. Il n'y a plus de métro du tout, ni de RER. Et du coup, les trottoirs sont bondés comme un samedi de solde. Les Parisiens marche.
1h3 le matin, 1h3 le soir.
Et alors, c'est la galère.
J'ai mal aux chevilles. Hein, ça marche pas. Je ne peux pas continuer comme ça. Il faut qu'on arrête la grève.
Bonjour madame, vous venez d'où ?
De Sceaux, en stop. Et je vais porte de Clignancourt, donc avec ma pancarte. Ils prennent assez facilement.
Et on se met à faire du stop avec des pancartes pour indiquer sa destination. Opéra, Nation, Massy-Palaiso. Et dans les entreprises, des tableaux se remplissent de petites annonces de covoiturage. Entre collègues, entre amis, on s'héberge le soir, pour un soir ou deux. Et les Français se consolent sur un point. Au moins pendant cette grève, on se parle, on s'entraide. À un moment, le gouvernement réquisitionne des bateaux-mouches. Et il mobilise aussi des bus privés. Et comme les trains de marchandises ne circulent plus, et que les conditions de circulation sont effroyables, eh bien, dans les magasins, certains étals sont vides. pour ne rien arranger, la météo se met de la partie. Le 5 décembre, un anticyclone scandinave pousse vers la France une vague de froid. Elle vient tout droit de Sibérie et le thermomètre tombe au-dessous de zéro. Et il se met à neiger. Et il y a quand même 50 000 personnes à la manif du 5 décembre à Paris.
Il faisait froid aujourd'hui à Paris, quelques flocons sont tombés sur les grands boulevards, mais cela n'a pas refroidi l'ardeur des manifestants. Depuis 15 jours, on commence à s'habituer au slogan réclamant le retrait du plan Juppé sur la sécu, mais aujourd'hui, les manifestants sont allés un peu plus loin.
Juppé, démission ! Juppé, démission !
En région, il y a plus de monde que lors des précédentes manifs. 50 000 à Bordeaux, 30 000 à Toulouse, 20 000 à Caen, 10 000 à Rouen. Du jamais vu, semble-t-il, depuis 68. Le soir même, à 20h, Alain Juppé fait une allocution télévisée depuis son bureau de Matignon. Il le redit, le gouvernement ne cédera pas.
Il n'est plus possible de continuer comme cela. Nous sommes dans une situation de blocage et d'affrontement dont chacune et chacun va finir par pâtir. Il faut en sortir d'urgence. Je veux vous parler les yeux dans les yeux. Je ne retirerai pas le plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale parce que ce serait une erreur, et je dirais même une faute, que de le faire.
Le Premier ministre fait une concession, une seule, sur la réforme des retraites. Il charge une commission de rédiger un livre blanc. C'est Clémenceau qui disait « quand on veut enterrer une décision, on crée une commission ». Ça veut dire, ça, que le gouvernement entr'ouvre la porte à une négociation. Mais le lendemain, dans les manifs... Le Conseil des ministres du 6 décembre est expédié en une heure chrono. Et en pleine crise, figurez-vous que le sujet de la grève n'est pas du tout abordé. Du coup, à la fin, le porte-parole du gouvernement, Alain Lamassoure, est bien embêté. Qu'est-ce qu'il va dire aux journalistes? Alors il va voir Chirac. Monsieur le Président, qu'est-ce que je dis sur la crise sociale? Eh bien, on n'en a pas parlé. Tu ne dis rien. Monsieur le Président, avec ce qui se passe dans la rue, je ne peux pas dire qu'on s'est réunis, qu'on n'en a pas parlé, enfin. Eh bien, tu n'as qu'à dire que je soutiens le gouvernement. Comme la corde soutient le pendu. C'est une blague, bien sûr. Et finalement, Chirac tranche. À la Chirac. Bon, écoute, hein, tu te démerdes. Chirac, en vérité, est en train de lâcher Juppé. Et sur Canal+, les guignols s'en régalent.
Négociation. Vas-y.
Non.
Si, allez, négociation. Répète.
Négociation.
Encore.
Négociation.
Ah, bah putain, 18 jours pour ça.
Et pendant ce temps, dans les dépôts, la grève est reconduite, jour après jour. Et maintenant, dans les manifs, en queue de cortège, il y a des casseurs. Ça ne peut plus durer. Alors le 10 décembre, Juppé recule.
J'ai lu ici ou là qu'on allait mettre en cause ces régimes spéciaux. Il n'est pas question de les remettre en cause. Il n'est pas question de les supprimer. Il n'est pas question de les aligner sur le régime général.
Le contrat de plan SNCF, qui lui aussi est au cœur des discussions en ce moment, est-ce qu'il est ajourné ou est-ce qu'il est suspendu?
Précisément, là, on n'a pas décidé le contrat de plan. Il n'a pas été signé. Il était en cours de préparation.
Traduction. Juppé renonce à réformer les régimes spéciaux de retraite et il suspend la réforme de la SNCF. La seule chose qu'il maintient, c'est la réforme de la branche maladie de la Sécu, la CRDS, le médecin référent et les médicaments génériques. À ce moment-là, la CGT peut considérer qu'elle a gagné. Bernard Thibault et Louis Vianney pourraient appeler à la reprise du travail. Mais non, hein, tant qu'à faire, galvanisé par le succès, ils veulent pousser le bras de fer jusqu'au bout, forcer Juppé à renoncer aussi à son plan sur la sécu. Le Le lendemain de sa reculade, Alain Juppé fait venir Vianney et Thibault à l'hôtel Matignon.
« Bien, messieurs, nous avons renoncé à la referme des retraites et de la SNCF. Hein ? Alors maintenant, il faut stopper la grève des transports. Enfin, de toute façon, je ne céderai pas sur la sécu. On tiendra le temps qu'il faudra. »
Le lendemain, c'est le 19e jour de grève. Une nouvelle manifestation rassemble 2 millions de personnes à Paris et en province. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Juppé au tout début, à Sud-Ouest ? Si 2 millions de personnes descendent dans la rue, mon gouvernement ne survivra pas.
Eh ben voilà, 2 millions, on y est.
À cette limite près que Vianney et Thibault ont compris le signal. Ils ont compris que Chirac ne reculera pas sur la réforme de la Sécu. Et puis, il faut savoir arrêter une grève, n'est-ce pas ? Le moment est venu. Bernard Thibault va voir Bernard Ponce, le ministre des Transports. Il veut des garanties et il arrête. Thibault dira que c'est lui qui a dicté la lettre au ministre.
Le projet de contrat de plan est gelé et remis à plat. Point. Un nouveau projet doit être élaboré. Point. Nous veillerons à ce que vous soyez associés à son élaboration. Point. Nous vous garantissons qu'aucun élément relatif au statut des personnels ne sera remis en cause. Point. Nous vous prions de croire, etc., monsieur le secrétaire général, à notre considération distinguée.
Signé Bernard Ponce. Le matin du 14 décembre, les assemblées générales de cheminots votent la reprise du travail. Les premiers trains sortent des entrepôts. Et le lendemain, les conducteurs de la RATP font de même.
Nous vous informons que le trafic reprend sur la ligne 1 entre Esplanade de la Défense et Château de Vincennes.
Ben oui, je suis contente, j'ai l'impression de ressentir le métro tout neuf, tout propre, et on peut rentrer comme ça. Et...
C'est une émotion intense, c'est tout à fait par hasard que je le prends, et ben, je suis content, et puis ils ont fini de nous emmerder comme ça, donc c'est bien.
La réforme de la sécurité sociale va passer, mais sans le volet sur les régimes spéciaux de retraite. 2 ans plus tard, en 1997, la France est qualifié pour la future monnaie unique. Mais le 1er juin, la majorité perd les élections. Jospin s'installe à Matignon. Pour 5 ans. Voilà donc pour cette histoire des grandes grèves de 1995. Et je vais me tourner vers celui que nous avons choisi pour débriefer cette histoire, Michel Dreyfus. Vous êtes historien spécialiste du mouvement ouvrier, du syndicalisme et de la mutualité. Vous êtes l'homme qu'il nous faut. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle à l'Université de Paris 1. Juste un mot sur la dernière scène, là. Vous y croyez, ça, que c'est Bernard Thibault qui dicte la lettre à Bernard Ponce à l'époque ? C'est humiliant.
Moi, je serais très prudent sur ce genre de choses parce que, bon, ça fait très beau, c'est tout à fait valorisant, mais je n'y étais pas, je ne peux pas infirmer ou confirmer, cet événement. Donc, là, je serais extrêmement prudent là-dessus.
Alors, si on retourne Michel Dreyfus au tout début de l'histoire, c'est-à-dire au moment où le gouvernement présente sa réforme, il y a quelque chose tout de même de très très différent d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle l'état de grâce. C'est-à-dire que Jacques Chirac a été élu 6 mois plus tôt, Juppé est Premier ministre depuis 6 mois seulement, et normalement il y a l'élan de l'élection, l'élan de la démocratie. De votre expérience, est-ce que ça change quelque chose, l'état de grâce, ou pas ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Quand vous parlez de l'état de grâce, en 95, Chirac venait d'être élu, ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça c'est une première différence. J'en ajoute une seconde qui me paraît tout à fait importante, c'est que en 95, il y a eu un effet de surprise complet. Et je pense qu'une des grandes erreurs de Juppé, je crois d'ailleurs qu'il a reconnu par la suite, c'est d'avoir concerté, élaboré ce plan de façon extrêmement, avec très peu de personnes, et de ne pas avoir discuté du tout. Là, au contraire, on est dans une situation complètement différente, puisque la réforme des retraites, d'abord Macron l'avait annoncé dans son programme, et ça fait plusieurs mois qu'on en parle, ça fait plusieurs mois qu'on discute, donc là, on est vraiment dans quelque chose de complètement différent, puisque, il en est question depuis un bon moment.
Oui, c'est-à-dire que Jacques Chirac avait... Il faut se souvenir que la campagne de 95, c'est la fameuse campagne contre la fracture sociale, c'est le grand argument de la campagne, et effectivement, il promet de se mettre dans les clous des 3% demandés à Maastricht, mais il n'avait rien promis comme réforme de ce tonneau-là. Effectivement, c'est là qu'est la réforme, quoi.
Là, effectivement, il était question, Chirac avait toute sa campagne sur la fracture sociale, n'avait pas du tout parlé de réforme de la sécurité sociale. Là, Macron en a parlé dans sa campagne, d'une part, et d'un autre côté, nous sommes dans des situations différentes, puisque la réforme Juppé est venue quelques mois après l'élection de Jacques Chirac, tandis que là, on est environ 2 ans et demi après l'élection de Macron. Donc là, il y a déjà 2 différences qui sont vraiment importantes.
Et on a un pouvoir politique qui est plus usé, et notamment usé par les Gilets jaunes et tout ce qui s'est passé l'année dernière.
Alors ça, c'est un autre élément qui entre effectivement en ligne de compte, c'est le fait que depuis novembre dernier, il y a eu, enfin en gros jusqu'à l'été, même si en s'amenuisant, le mouvement des Gilets jaunes qui était important, qui était quelque chose d'inédit d'ailleurs par son ampleur et par sa durée, encore une fois même s'il était important, toute chose qui n'avait pas eu du tout lieu en 1995.
Alors il y a la méthode aussi pour faire passer la réforme, qui est totalement différente. 1995, on vient d'une élection, donc assez logiquement le gouvernement dit j'ai la légitimité pour engager ma réforme, et donc je vais zapper le Parlement, où de toute façon j'ai la majorité pour ne pas perdre de temps, je vais engager la responsabilité du gouvernement, et ensuite on procédera pour les détails par ordonnance, alors que là, en revanche, cette année, on est dans un processus parlementaire classique, avec un projet de loi qui sera présenté au Parlement.
Oui. On est dans un processus parlementaire. Alors effectivement, là aussi, Macron a la majorité au Parlement. Mais encore une fois, ce qui est différent, c'est que cette réforme, on en parle depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Monsieur Delevoye a fait une mission de concertation avec les syndicats. Donc là, encore une fois, on est vraiment dans quelque chose de complètement différent. Et malgré tout, enfin moi, à mon avis, ce qui me semble, c'est que les enjeux de la réforme sont parus de moins en moins clairs au fil du temps. Et là, il me semble que le gouvernement a complètement brouillé son message. Et parce que finalement, personne ne sait, je pense que nous aurons des détails là-dessus dans 2 jours, personne ne sait exactement qu'est-ce qui va être proposé dans 2 jours.
Là où on peut faire le parallèle, c'est sur l'étendue de la réforme. En 95, au fond, quand on a commencé à avoir un peu de recul, on s'est dit peut-être que Juppé a mis trop de fer au feu en même temps. Il a créé la CRDS, qui n'est pas rien quand même, c'est une taxe sur les salaires qui perdure hein, 25 ans après. Il veut du même coup mettre fin aux régimes spéciaux, réorganiser la SNCF, et puis tant qu'à faire, la gestion des régimes de sécurité sociale, on va le retirer aux syndicats, au patronat, pour le faire gérer par le Parlement. C'était beaucoup. Mais cette année aussi, c'est beaucoup.
Alors, j'ajouterais je vais remonter un peu plus loin dans le temps. En 1953, le gouvernement a essayé aussi de mettre fin aux régimes spéciaux en liant ça avec une réduction du nombre de fonctionnaires, une réduction de la fonction publique qui a enclenché un mouvement extrêmement social, extrêmement important, et qui a obligé le gouvernement à capituler en race campagne. Ça se passait à l'été 53. Là encore, ça veut dire que, d'une part, la question des régimes spéciaux était extrêmement sensible, et de longue date, de très longue date, puisqu'on était en 53, vous voyez, bien avant 95, et que d'un autre côté, effectivement, vouloir faire un ensemble de réformes, ça ne passe pas.
C'est-à-dire que on est face au même problème là pour le coup qu'en 95 avec une réforme trop large. Il aurait fallu au fond procéder en 2 temps. D'abord l'unification du système en terminant avec les régimes spéciaux, et puis oui, plus tard éventuellement le passage à un système à points.
Eh ben, ça, effectivement, on peut discuter, mais je pense que, effectivement, l'ampleur de la réforme, Juppé a fait cet erreur en 95, et je me demande si le gouvernement actuel n'est pas en train de recommencer la même erreur en mélangeant plusieurs problèmes de fond, en associant plus exactement plusieurs problèmes de fond.
Monsieur Dreyfus, est-ce qu'on peut comparer le paysage syndical de 95 à celui d'aujourd'hui? La CGT n'a pas changé. C'est la même, en gros, 25 ans plus tard.
Non, il y a quand même un certain nombre de changements. D'abord, la CGT a beaucoup changé entre les années après, autour de 1995, justement, pendant une vingtaine d'années, dans la mesure où elle a pris ses distances avec le Parti communiste, en particulier par l'intermédiaire de Louis Vianney et ensuite de Bernard Thibon. On peut se demander d'ailleurs quelle est la position actuelle, et sans oublier que la poids du Parti communiste, n'oubliez pas que le Parti communiste a longtemps pesé très fortement sur la CGT,
aujourd'hui
beaucoup moins que actuellement. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, et il faut rappeler que justement, dans les années 95, le mouvement syndical, et en particulier la CGT, sortait d'une crise profonde qui avait vu une érosion très forte de ses effectifs, environ 2/3. Moins pour la CFDT-FO, mais cette hémorragie touchait l'ensemble du mouvement syndical. Troisième point, la question continue à se poser aujourd'hui. Troisième point, la CGT n'est plus la première organisation syndicale française, puisqu'elle était devancée par la CFDT. Bon, pas de beaucoup, mais enfin quand même. Donc il y a un certain nombre d'éléments différents. Il y a une différence supplémentaire. En 1995, en gros, la réforme Juppé avait été soutenue par la CFDT, combattue par la CGT-FO. On peut se demander dans quelle mesure les réformes voulues par Macron sont soutenues par la CFDT. Je rappelle que pour l'instant, la CFDT cheminot entre dans la grève, soutient la grève. On va bien voir jusqu'à quand. Mais enfin bon, là aussi, il y a quand même des différences qu'il faut noter.
Il y a des choses qui se sont passées depuis. Par exemple, on l'a vu très récemment dans les conflits à la SNCF. La CGT qui était à la tête de la grogne à la SNCF s'est fait doubler récemment. Il y a des dépôts qui se sont mis en grève, notamment des dépôts de maintenance, créant des perturbations considérables, sans consulter les syndicats.
Oui, alors il y a aussi l'émergence d'organisations comme Sud.
Troisième syndicat aujourd'hui, la SNCF.
Troisième syndicat, et qui a une certaine influence, un certain poids à la SNCF. Donc là aussi, il faut prendre en compte cet élément. Je pense que en plus, dans le mouvement actuel, les syndicats ont été en quelque sorte doublés sur le plan des revendications par les Gilets jaunes, qui ont obtenu, par la violence, mais enfin, qui ont obtenu que le gouvernement débloque 17 milliards, ce qui n'est pas rien. Et comme l'ont dit beaucoup de syndicalistes, les Gilets jaunes ont obtenu ce que nous n'avons pu obtenir depuis des années. Je pense qu'il y a aussi un élément dans le monde actuel, c'est que les syndicats veulent reprendre la main, en quelque sorte.
Et est-ce qu'on peut envisager dans le mouvement actuel, dans les jours qui viennent, une prise de pouvoir de la base et une perte de contrôle du mouvement par les syndicats?
Moi, j'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. En 1995, les syndicats étaient affaibliés. Il n'empêche qu'ils ont effectivement tout à fait organisé, encadré le mouvement. Et je pense qu'il en sera, je ne peux évidemment me tromper, mais je pense qu'il en sera de même maintenant. Je ne crois pas beaucoup des possibilités de débordement.
J'ai noté aussi que l'UNSA n'existait pas en 95. Hein, oui. C'est un syndicat qui il existait à peine, quoi. Donc il ne pesait pas très lourd. C'est le deuxième syndicat de la SNCF aujourd'hui.
Oui.
Ça change quoi?
Là, vous affrontez une réalité sur laquelle il y a en France une division syndicale de plus en plus poussée. Je vais citer le mot d'un orfèvre en la matière, c'était Louis Vianney, qui était justement secrétaire de la CGT en 1995, et qui déplorait le fait qu'il y ait de moins en moins de syndiqués et de plus en plus de syndicats.
La question de la popularité de la grève, on voit qu'en 95, un peu comme aujourd'hui, il y a un soutien objectif, des gens qui marchent, des gens qui font du vélo, des gens qui en bavent. 62% des Français soutiennent la grève à l'époque, on est dans les mêmes étiages aujourd'hui.
Oui, alors en 1995, effectivement, c'était un élément très important. Encore une fois, les syndicats étaient affaiblis, mais ils ont bénéficié d'une audience très forte dans le pays qui a soutenu la grève. Là, on peut se demander, alors là, vraiment, c'est la question qui se pose, parce qu'on en est qu'au tout début. N'oubliez pas que ça a commencé en 95, le 25 novembre, le 23 novembre. Là, on est qu'au tout début, donc on va bien voir si ce soutien va continuer, va se poursuivre ou non. Je ne peux pas vous le dire, mais ce sera effectivement un élément très important.
Vous pouvez pas le dire puisque vous êtes historien, ça regarde que le passé, l'histoire.
Mais non, puis, bon, et même, ça regarde le passé, ça permet aussi de comprendre le présent, ça ne permet pas forcément de prévoir l'avenir.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.